17 septembre. Le savoir n'est pas la sagesse. Notre soif de savoir, notre désir d'acquérir sans cesse quelque chose, nous font perdre l'amour et ainsi s'émousse et le sentiment que nous avons de la beauté et notre sensibilité à la cruauté. Nous nous spécialisons de plus en plus et sommes de moins en moins intégrés. La sagesse ne saurait être remplacée par les connaissances. Et aucune somme d'explications, ni aucune accumulation de faits, ne libéreront l'homme de la souffrance. Le savoir est nécessaire, la science a son utilité. Mais si le cœur et l'esprit sont étouffés par les connaissances, et si la cause de la souffrance est oblitérée par des explications, la vie devient vaine et n'a plus de sens. L'information, la connaissance des faits, bien qu'elle augmente en permanence, est, par sa nature même, limitée. La sagesse est infinie. Elle inclut la connaissance et le processus de l'action. Mais nous saisissons une branche et nous croyons que c'est l'arbre entier. La connaissance d'une partie ne peut jamais nous faire réaliser la joie du tout. L'intellect ne peut conduire au tout, car il n'est lui-même qu'un fragment, qu'une partie. Nous avons séparé l'intellect de la sensibilité et nous avons développé celui-ci à son détriment. Nous sommes comme un objet à trois pieds dont l'un serait beaucoup plus long que les deux autres et nous n'avons pas d'équilibre. Nous sommes entraînés à être des intellectuels. Notre éducation dispense à l'intellect une formation qui l'aiguise, le rend habile, capable d'acquérir et c'est ainsi qu'il tient le rôle majeur dans nos vies. L'intelligence est bien supérieure à l'intellect, car elle est l'intégration de l'amour et de la raison. Mais il n'y a d'intelligence qu'en la connaissance de soi, en la profonde compréhension du processus total de soi-même. . 18 septembre. La fonction de l'intellect. Je ne sais si vous avez déjà réfléchi à la nature de l'intellect. L'intellect et ses activités ne posent aucun problème à un certain niveau, n'est-ce pas? Mais quand l'intellect porte atteinte à cette pure sensibilité de perception, alors la médiocrité s'installe. Pour connaître la fonction de l'intellect et avoir conscience de cette pure perception, sans les laisser se mêler l'une à l'autre et se détruire mutuellement, il faut avoir une grande clarté, une grande acuité de conscience. La fonction de l'intellect est donc toujours, n'est-ce pas, d'explorer, d'analyser, de chercher à savoir. Mais parce que nous avons soif de sécurité intérieure, psychologique, parce que nous sommes effrayés, angoissés par la vie, nous en arrivons à une conclusion donnée et nous engageons à son service. Un engagement nous amène à un autre, et je dis que cet esprit-là, cet intellect-là, qui s'est fait l'esclave d'une conclusion, a cessé de penser, de s'interroger. . 19 septembre. Soyez différents. J'ignore si vous avez déjà remarqué le rôle immense que l'intellect joue dans notre vie. Les journaux, les magazines, tout autour de nous privilégie la raison. Non que je sois opposé à la raison. Au contraire, nous devons être capables de raisonner très clairement, très finement, mais vous constaterez, à bien y regarder, que l'intellect ne cesse d'analyser afin de savoir pourquoi nous avons besoin ou non d'appartenir, pourquoi il faut être différent si l'on veut découvrir la réalité et ainsi de suite. Il y a donc l'intellect avec son aptitude à s'interroger, à analyser, à raisonner et à tirer des conclusions. Et il y a la sensitivité, la perception pure, qui est sans cesse interrompue, dénaturée par l'intellect. Et quand l'intellect interfère avec la perception pure, cette interférence produit un esprit médiocre. Nous avons d'un côté l'intellect, avec sa capacité de raisonnement, fondée sur ses préférences et ses aversions, sur son conditionnement, sur son expérience et son savoir, et de l'autre côté nous avons la sensitivité, qui est corrompu par la société, par la peur. Vont-ils à eux deux nous révéler la vérité? Ou n'y a-t-il que la perception et rien d'autre? 20 septembre. Un esprit qui apprend. Qu'entendons-nous par apprendre ? Est-ce apprendre que de se borner à acquérir des connaissances, à engranger des informations ? C'est une certaine façon d'apprendre, n'est-ce pas ? Si vous faites des études techniques, vous étudiez les mathématiques et ainsi de suite, vous apprenez, vous vous informez sur le sujet. Vous accumulez des connaissances afin de les utiliser à des fins pratiques. Vous apprenez alors par accumulation, par addition. Mais lorsque l'esprit ne fait qu'absorber, additionner, acquérir, est-ce apprendre ? Apprendre, n'est-ce pas une toute autre chose ? Je dis que ce processus accumulatif que nous désignons actuellement par le terme d'apprendre n'a rien à voir avec ce qu'est apprendre. Ce n'est rien d'autre que cultiver la mémoire qui devient mécanique. Et l'esprit qui fonctionne mécaniquement, comme une machine, est incapable d'apprendre. Apprendre est tout autre chose, ainsi que je vais essayer de vous le montrer. L'esprit qui apprend ne dit jamais « je sais », parce que le savoir est toujours fragmentaire, alors qu'apprendre est toujours quelque chose d'intégral. Apprendre ne signifie pas partir d'une certaine somme de connaissances pour en ajouter de nouvelles. Cela n'est qu'un simple processus mécanique. Or, apprendre est quelque chose de très différent. Pour moi, apprendre est quelque chose de tout autre. J'apprends à propos de moi-même d'instant en instant et ce moi-même est vital, essentiel. Il vit, il bouge, il n'a ni commencement ni fin. Dès que je dis « je me connais », c'en est fini d'apprendre. Tout s'achève dans le savoir accumulé. Apprendre, ce n'est jamais accumulé. C'est un mouvement du connaître qui n'a ni commencement ni fin. Le 21 septembre. Le savoir s'arroge l'autorité. Aucun mouvement d'apprendre n'est possible lorsqu'on ne fait qu'acquérir des connaissances. Les deux choses sont incompatibles, elles sont contradictoires. Le mouvement d'apprendre suppose un état dans lequel l'esprit n'a aucune expérience préalable emmagasinée sous forme de savoir. Le savoir est une acquisition. Apprendre, au contraire, est un mouvement constant qui n'est pas un processus d'acquisition ou d'addition. Il suppose donc un état dans lequel l'esprit n'est investi d'aucune autorité. Le savoir s'arroge toujours l'autorité, et l'esprit qui se retranche derrière l'autorité du savoir est absolument incapable d'apprendre. L'esprit ne peut apprendre que lorsque le processus d'accumulation a définitivement cessé. Pour la majorité d'entre nous, il est assez difficile de faire la différence entre la notion d'apprendre et celle d'acquérir des connaissances. Grâce à l'expérience, en lisant, en écoutant, l'esprit accumule des connaissances. C'est un processus de thésaurisation par lequel nous ajoutons à ce qui est déjà connu et c'est sur la base de cet arrière-plan que nous fonctionnons. En fait, par ce terme « d'apprendre », nous désignons le plus souvent ce processus même d'acquisition d'informations nouvelles qui viennent s'ajouter au stock de connaissances que nous possédons déjà. Mais je parle ici de quelque chose de tout à fait différent. Le terme « apprendre » ne signifie pas pour moi que l'on ajoute à ce que l'on sait déjà. On ne peut apprendre que lorsqu'il n'y a pas la moindre trace d'attachement au passé sous forme de savoir. C'est-à-dire lorsqu'on ne traduit pas en termes de connu tout ce qu'on voit de neuf. L'esprit qui apprend est un esprit innocent, alors que l'esprit qui acquiert simplement des connaissances est un esprit vieux, stagnant, corrompu par le passé. L'esprit innocent a une perception instantanée. Il apprend constamment, sans rien accumuler, et seul un tel esprit est mûr. Le 22 septembre. C'est le cerveau qui produit l'esprit. Qu'est-ce que l'esprit ? Quand je pose cette question, il ne faut pas s'attendre à ce que j'y réponde. Regardez votre esprit, observez le fonctionnement de votre pensée. Ce que je décris n'a qu'une simple valeur indicative, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est à vous d'en faire l'expérience. Le mot, la description, le symbole n'est pas la chose réelle. Le mot « porte » n'est évidemment pas la porte. Le mot « amour » n'est pas le sentiment, l'extraordinaire qualité de sentiment que ce mot désigne. Ne confondons donc pas le mot, le nom, le symbole avec le fait. Si vous ne faites que rester au niveau verbal et discuter de la nature de l'esprit, vous êtes perdu parce que jamais vous ne percevrez la qualité de cette chose étonnante qu'on appelle l'esprit. Qu'est-ce donc que l'esprit ? L'esprit est évidemment l'ensemble de nos facultés perceptives ou de notre conscience. C'est le processus total de notre existence, le processus global de notre pensée. L'esprit est le fruit du cerveau. Le cerveau engendre l'esprit. L'esprit est l'enfant du cerveau. Sans le cerveau, point d'esprit. Mais l'esprit est pourtant distinct du cerveau. Si le cerveau est limité ou endommagé, l'esprit lui aussi sera endommagé. Le cerveau qui enregistre toutes les sensations, toutes les réactions de plaisir ou de douleur, le cerveau avec tous ses tissus, tous ses réflexes, crée ce que nous appelons l'esprit. Bien que l'esprit soit cependant indépendant du cerveau. Vous n'êtes pas obligé d'admettre tout cela. Vous pouvez le passer au crible de l'expérience et tirer vos propres conclusions. Septembre. L'esprit retenu par son encre. Nous poursuivons, telles des machines, notre harassante routine quotidienne. Avec quel empressement l'esprit se plie à un schéma de vie et avec quelle ténacité il s'y accroche. L'esprit est rivé en place par l'idée, comme par un clou, et c'est autour de l'idée qu'il organise son existence et fonde son être. L'esprit n'est jamais libre, souple, car il est toujours retenu par son encre. Il évolue dans l'enceinte, tantôt large, tantôt étroite, de son propre centre. Il n'ose pas s'aventurer loin de ce centre, et lorsqu'il le fait, il est éperdu de peur. Pas la peur de l'inconnu, mais celle de perdre ce qui est connu. L'inconnu ne suscite pas la peur, alors qu'être dépendant du connu la provoque. La peur est toujours liée au désir, désir du plus ou du moins. L'esprit, qui tisse sans cesse sa toile de schéma, est le géniteur du temps. Et le temps apporte avec lui la peur, l'espoir et la mort.